Chapitre 20. L'escalier principal est plus large que le nôtre, avec une rampe incurvée de part et d'autre. Là-haut, j'entends la mélopée des femmes qui sont déjà arrivées. Nous gravissons l'escalier, à la queue leu-leu, en prenant garde de ne pas marcher sur les ourlets traînants les unes des autres. À gauche, les doubles portes de la salle à manger sont repliées, et à l'intérieur, je vois la longue table recouverte d'une nappe blanche et garnie d'un buffet. Jambon, fromage, orange. Il y a des oranges. Pain et gâteau, tout frais sorti du four. Quant à nous, nous aurons du lait et des sandwiches sur un plateau plus tard. Mais pour elle, il y a une fontaine à café et des bouteilles de vin. Car pourquoi les épouses ne se griseraient-elles pas un peu à l'occasion d'un jour aussi triomphal ? D'abord, elles attendront les résultats, puis elles se goinfreront. Elles sont maintenant réunies dans le salon de l'autre côté de l'escalier à encourager l'épouse du commandant des lieux, l'épouse de Warren. C'est une petite femme fluette. Elle gît par terre, vêtue d'une chemise de nuit en coton blanc, ses cheveux grisonnants, répandus comme du mildiou, sur le tapis. Elle masse son ventre menu, comme si elle était vraiment sur le point d'accoucher. Le commandant, bien sûr, n'est nulle part en vue. Il s'est retiré là où vont les hommes en pareille occasion, dans quelques cachettes. Probablement est-il à se demander quand sa promotion va être annoncée. Il est sûr d'en obtenir une à présent. De Warren est dans la chambre à coucher des maîtres, qui porte bien son nom. C'est là où le commandant et son épouse se couchent tous les soirs. Elle est assise sur le lit grand format, soutenue par des oreillers. Janine, enflée mais réduite, amputée de son ancien nom. Elle porte une chemise de coton blanc, retroussée sur ses cuisses. Ses longs cheveux couleur de genêt sont tirés en arrière et attachés sur la nuque pour ne pas la gêner. Elle a les yeux étroitement fermés, et telle qu'elle est, je peux presque l'aimer. Après tout, elle est l'une des nôtres. Qu'a-t-elle jamais voulu faire d'autre que vivre sa vie aussi agréablement que possible ? Que souhaitons-nous de plus, les unes et les autres ? Le mot « possible », c'est là le piège. Elle ne se débrouille pas trop mal, compte tenu des circonstances. Deux femmes que je ne connais pas sont debout à ses côtés, à lui étreindre les mains, ou elles les leurs. Une troisième soulève la chemise de nuit, verse de l'huile pour bébé sur son ventre en tumulus, masse vers le bas. À ses pieds se tient tante Elisabeth, vêtue de sa robe kaki à poche militaire sur la poitrine. C'est elle qui faisait le cours de gynéco. Je n'aperçois d'elle que le côté de sa tête, son profil. Mais je sais que c'est bien elle, ce nez proéminent et ce beau menton sévère. À côté d'elle est posée la chaise d'accouchement avec son double siège, celui de l'arrière dominant l'autre comme un trône. Elles n'y placeront pas Janine avant qu'il soit temps. Les couvertures sont prêtes, le petit baquet pour le bain, le bol de glaçons à sucer pour Janine. Les autres femmes sont assises en tailleur sur le tapis. Il y en a une foule. Toutes celles du district sont censées être là. Elles doivent être 25, 30. Tous les commandants n'ont pas de servantes. Certaines de leurs épouses ont des enfants. « À chacun selon ses capacités », dit le slogan. « À chacun selon ses besoins ». Nous récitions cela à trois reprises après le dessert. C'était tiré de la Bible, du moins l'affirmait-il. Saint Paul, encore, dans les Actes des Apôtres. « Vous êtes une génération de transition », disait tante Lydia. « C'est pour vous que c'est le plus dur. Nous savons quels sacrifices sont attendus de vous. C'est dur quand les hommes vous humilient. Pour celles qui viendront après vous, ce sera plus facile. » Elles accepteront leur devoir de bon cœur. Elles ne disaient pas « parce qu'elles n'auront pas de souvenir de quoi que ce soit d'autre ». Elles disaient « parce qu'elles ne désireront pas ce qu'elles ne peuvent pas avoir ». Une fois par semaine, nous avions du cinéma, après le déjeuner et avant notre sieste. Nous étions assises sur le sol de la salle d'économie ménagère, sur nos petites nattes grises, à attendre, tandis que tante Elena et tante Lydia bataillait avec l'appareil de projection. Si c'était un jour de chance, elle ne bobinerait pas le film à l'envers. Cela me rappelait les cours de géographie, au lycée où j'allais il y a des milliers d'années, où l'on nous projetait des films sur le reste du monde. Femmes en longues jupes ou en robes de coton imprimées bon marché, transportant des fagots de brindilles ou des paniers ou des seaux en plastique plein d'eau, puisés à quelques rivières, portant des bébés en bandoulière, retenus contre elles par un châle ou une élingue en filet, et qui nous regardaient depuis l'écran en louchant d'un air apeuré, parce qu'elles savaient qu'on leur faisait quelque chose avec une machine à œil de verre unique, mais ne savaient pas quoi. Ces films étaient réconfortants et légèrement ennuyeux. Ils me donnaient sommeil, même lorsque des hommes apparaissaient à l'écran, les muscles nus, à piocher des terres dures à l'aide de houes et de pelles. Je préférerais des films avec des danses, des chants, des masques de cérémonie, des instruments sculptés pour faire de la musique, plumes, boutons de cuivre, coquillages, tambours. J'aimais observer ces gens quand ils étaient heureux, pas quand ils étaient misérables, affamés, émaciés, à s'escrimer à mort à un travail simple, le creusement d'un puits, l'irrigation des terres, problème que les nations civilisées avaient depuis longtemps résolu. Je pensais que quelqu'un devrait juste leur donner la technique et les laisser s'en servir. Tante Lydia ne montrait pas ce genre de film. Parfois, elle projetait un vieux film porno des années 70 ou 80. Femme agenouillée, à sucer des pénis ou bites, femme attachée ou enchaînée ou portant des colliers de chien autour du cou, femme suspendue à des arbres ou la tête en bas, nue, jambes écartées, des femmes qu'on violait, battait, tuait. Une fois, nous avons dû assister au spectacle d'une femme que l'on découpait lentement en morceaux, à qui l'on tranchait les doigts et les seins avec des cisailles de jardinier, dont on ouvrait le ventre pour en extraire les intestins. « Réfléchissez à l'autre option !» disait Tante Lydia. « Vous voyez ce qui se passait ? Voilà ce qu'ils pensaient des femmes dans ce temps-là !» Sa voix tremblait d'indignation. Moira disait plus tard que ce n'était pas réel, que c'était tourné avec des mannequins. Mais c'était difficile de voir la différence. Parfois, le film était ce que Tante Lydia appelait un documentaire sur les antifemmes. « Imaginez !» disait Tante Lydia. « Perdre leur temps ainsi alors qu'elles auraient dû s'occuper à quelque chose d'utile. » En ce temps-là, les antifemmes perdaient toujours leur temps. On les y encourageait. Le gouvernement leur donnait de l'argent précisément dans ce but. « Attention, certaines de leurs idées étaient assez bonnes, » poursuivait-elle. Avec dans la voix la suffisance autoritaire de quelqu'un qui est en mesure de juger. « Mais attention, seulement certaines !» disait-elle en minaudant, levant l'index et le trémoussant dans notre direction. « Mais c'était des sans-dieux, et cela peut faire toute la différence, n'est-ce pas ?» Je suis assise sur ma natte, les mains croisées. Tante Lydia fait un pas de côté pour dégager l'écran. La lumière s'éteint, et je me demande si je peux, dans le noir, me pencher loin vers la droite sans être vue et chuchoter à ma voisine. Qu'est-ce que je chuchoterais ? Je dirais « As-tu vu Moira ? » Parce que personne ne l'a vue. Elle n'a pas assisté au petit déjeuner. Mais la pièce, quoique obscurcie, n'est pas assez sombre. Alors je branche mon esprit sur le circuit d'attente qui passe pour retenir l'attention des spectateurs. Ils ne jouent pas la bande sonore pour des films comme celui-ci, mais nous y avons droit pour les films porno. Ils veulent que nous entendions les cris, les grognements et les hurlements de ce qui est supposé être le comble de la douleur, ou du plaisir, ou des deux à la fois. Mais ils ne veulent pas que nous entendions ce que disent les antifemmes. D'abord apparaît le titre et quelques noms, caviardés sur le film au crayon gras, pour que nous ne puissions pas les lire. Puis je vois ma mère, ma jeune mère, plus jeune que dans mon souvenir, aussi jeune qu'elle a dû l'être un jour avant ma naissance. Elle porte le genre de tenue qui, d'après Tante Lydia, était typique des antifemmes de ces temps-là. Une salopette en jean, sur une chemise à carreaux verts et mauves, et des baskets. Le genre de vêtements que Moira portait jadis, et que je me souviens avoir porté moi-même, il y a bien longtemps. Ses cheveux sont fourrés dans un foulard, mauve, noué sur la nuque. Elle a le visage très jeune, très sérieux, voire joli. J'ai oublié que ma mère avait été un jour aussi jolie et aussi décidée. Elle est dans un groupe d'autres femmes, habillées dans le même style qu'elle. Elle tient un bâton. Non, cela fait partie d'une banderole, c'est un manche. La caméra remonte en panoramique et nous voyons l'inscription à la peinture, sur ce qui a dû être un drap de lit. Reprenez la nuit. Ceci n'a pas été caviardé, même si nous ne sommes pas censés le lire. Les femmes autour de moi retiennent leur souffle. Il y a un mouvement dans la pièce, comme un frisli de vent dans l'herbe. Est-ce un oubli? Est-ce que nous avons réussi à rafler quelque chose? Ou est-ce quelque chose qu'on veut nous montrer pour nous rappeler l'insécurité des jours anciens? Derrière cette pancarte, il y en a d'autres, et la caméra les balaie rapidement. Liberté de choisir. Chaque enfant doit être désiré. Reconquérons nos corps. Croyez-vous que la place d'une femme soit sur la table de la cuisine? Sous ce dernier slogan, il y a un dessin au trait d'un corps de femme couché sur une table avec du sang qui en dégouline. Maintenant, ma mère avance. Elle sourit. Elle rit. Elles avancent toutes et brandissent le poing en l'air. La caméra se déplace sur le ciel où montent des centaines de ballons, suivis de leurs ficelles, des ballons rouges, avec un cercle peint dessus. Un cercle qui a une queue comme une queue de pomme. La queue est une croix. Retour sur terre. Ma mère est perdue dans la foule à présent, et je ne la vois plus. Je t'ai eu à l'âge de 37 ans, me disait ma mère. C'était un risque. Tu aurais pu être mal formé ou autre chose. Tu étais un enfant désiré, cela oui. Et si tu savais les saloperies que j'ai dû entendre dans certains milieux? Ma plus vieille amie, Tricia Forman, m'a accusée d'être nataliste, la connasse. Par jalousie, j'ai pensé. Certaines des autres étaient correctes. Mais quand je me suis trouvée enceinte de 6 mois, il y en a plein qui se sont mis à m'envoyer des articles qui expliquaient que le taux de malformation congénitale monte en flèche après 35 ans. J'avais bien besoin de ça. Et des trucs sur la difficulté d'être une mère célibataire. Mettez-vous ça où je pense, je leur ai dit. J'ai entrepris quelque chose et j'irai jusqu'au bout. À l'hôpital, ils ont inscrit « primipare âgée » sur ma fiche. Je les ai vus faire. C'est comme cela qu'on vous désigne quand vous avez un premier enfant à plus de 30 ans. 30 ans, nom d'un chien. Connerie, je leur ai dit. Sur le plan biologique, j'ai 22 ans. Je pourrais vous battre à la course quand je voudrais. Je pourrais avoir des triplés et sortir d'ici sur mes 2 jambes pendant que vous en seriez encore à essayer de vous sortir du lit. Quand elle disait cela, elle pointait le menton en avant. Je me souviens d'elle ainsi. Le menton en avant. Un verre posé devant elle sur la table de la cuisine. Non pas jeune et décidée, comme elle l'était dans le film, mais sèche, irascible. Le genre de vieille femme qui ne laisse personne lui carotter sa place dans la file d'attente au supermarché. Elle aimait venir chez moi et prendre un verre pendant que Luc et moi préparions le dîner et nous dire ce qui n'allait pas dans sa vie, qui glissait invariablement vers ce qui n'allait pas dans la nôtre. Elle avait alors les cheveux gris, bien sûr. Elle refusait de les teindre. Pourquoi faire semblant, disait-elle. De toute façon, à quoi bon? Je ne veux pas d'un homme chez moi. À quoi servent-ils en dehors des 10 secondes qu'il faut pour faire la moitié d'un bébé? Un homme, c'est juste une stratégie de femme pour fabriquer d'autres femmes. Ce n'est pas que ton père n'ait pas été un type gentil et tout, mais il n'était pas fait pour la paternité. D'ailleurs, je ne me faisais pas d'illusions là-dessus. Fais juste le boulot et puis tu peux te tirer, j'ai dit. Je gagne correctement ma vie. Je peux payer la garderie. Alors il est parti sur la côte et il envoyait une carte à Noël. Il avait de beaux yeux bleus pourtant. Mais il leur manque quelque chose, même aux gabiens. C'est comme s'ils étaient constamment distraits, comme s'ils n'arrivaient pas tout à fait à se rappeler qui ils sont. Ils regardent trop le ciel. Ils perdent le contact avec leurs pieds. Ils n'arrivent pas à la cheville des femmes, sauf qu'ils savent mieux réparer les voitures et jouer au football. Tout ce qu'il nous faut pour améliorer la race humaine, pas vrai? C'est ainsi qu'elle parlait. Même devant Luc. Ça ne le dérangeait pas. Il la taquinait en jouant les machos. Il lui disait que les femmes étaient incapables de pensées abstraites. Elle se servait un autre verre et lui lançait un sourire. « Sale macho !» disait-elle. « Ce qu'elle est cocasse !» me disait Luc. Et ma mère prenait l'air rusé, presque sournois. « C'est mon droit !» disait-elle. « Je suis assez vieille, j'ai déjà donné. J'ai l'âge d'être cocasse, si ça me plaît. On te presserait le nez qu'il en sortirait encore du lait. Cochonnet, j'aurais dû dire. Quant à toi, me disait-elle, t'es juste un retour de flamme, un feu de paille. L'histoire m'absoudra. Mais elle ne tenait pas de pareils propos avant d'avoir bu son troisième verre. Vous, les jeunes, vous n'appréciez rien, disait-elle. Vous ne savez pas ce que nous avons dû subir, juste pour vous amener où vous êtes. Regarde-le à couper ses carottes. Est-ce que vous savez sur combien de vies de femmes, sur combien de corps de femmes les chardassons ont dû rouler juste pour arriver où nous sommes ? Faire la cuisine est mon passe-temps, disait Luc. Cela m'amuse. Passe-temps, passe-partout, disait ma mère. Pour moi, tu n'as pas besoin de trouver des excuses. Il fut un temps où tu n'aurais pas eu le droit d'avoir ce genre de passe-temps. On t'aurait traité de pédale. Allons, mère, disais-je. Ne nous disputons pas pour des riens. Des riens, disait-elle avec amertume. Tu appelles cela rien ? Tu ne comprends pas, n'est-ce pas ? Tu ne comprends absolument pas de quoi je parle. Parfois, elle pleurait. J'étais si seule, disait-elle. Tu n'as pas idée à quel point j'étais seule. Et j'avais des amis, c'était une chance, mais j'étais seule quand même. J'admirais ma mère à certains égards, quoique les relations entre nous n'aient jamais été faciles. Elle attendait trop de moi, me semblait-il. Elle s'attendait à ce que je fasse l'apologie de sa vie et des choix qu'elle avait faits. Je ne voulais pas vivre ma vie selon ses exigences. Je ne voulais pas être le rejeton modèle, l'incarnation de ses idées. Nous nous disputions là-dessus. « Je ne suis pas la justification de ton existence. » lui ai-je dit un jour. Je veux qu'elle revienne. Je veux que tout revienne, tel que c'était. Mais ça sert à rien de le vouloir.